Je reçois Monsieur Daniel Krob, alors qui a toute mon admiration parce que vous avez fait Normal Sup Mat. Alors déjà, la Normal Sup Mat, lettre, ça nous a donné quelques ministres des Finances, mais enfin, dont le dernier, c'est, on va pas en parler celui-là, Monsieur Le Maire, mais c'est pour moi...
Les matheux et les littéraires, c'est deux races très différentes.
C'est deux races très 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 différentes. Ouais. Et les Normal Sup Mat, pour moi, si vous voulez, c'est un peu comme Mozart et Salieri. Vous savez, il y a Salieri qui est là, qui galère, et puis il y a Mozart qui lui comprend tout, fait ses notes et tout. Donc, pour moi, vous êtes un être à part, ayant fait un Normal Sup Mat, vous avez droit à une petite étoile spéciale, quoi.
Et un grand mathématicien m'a dit un jour, Gelfand, c'était un des très grands mathématiciens du XXe siècle, m'a dit un jour, voilà, il faut pas croire qu'en maths les gens sont géniaux, c'est d'abord de la sueur.
C'est comme toujours, c'est 95% de transpiration et 5% d'inspiration, quoi, c'est toujours ça. Et alors, vous avez rencontré Didier Darcé, parce que vous avez... Lui, il aborde la finance du côté physique, vous l'abordez du côté mathématique, donc vous essayez de trouver une réconciliation.
Systémique, en fait.
Systémique, voilà.
Je ne me considère plus comme matheux, maintenant.
Non, vous êtes... Donc, pour essayer de comprendre les systèmes complexes, vous avez fait un volume 2, 3, qui s'appelle « Le modèle baisse à architecture ». Je ne pense pas que vous allez en vendre 100 000, mais...
C'est assez confidentiel.
C'est assez confidentiel, mais c'est intéressant. Et dans le fond, vous avez été donc au CNRS, vous avez été professeur à Polytechnique, et vous avez décidé de vous lancer comme entrepreneur. Expliquez-nous ce que vous offrez au système économique que le système économique n'avait pas jusque-là. Qu'est-ce que vous essayez de faire pour eux? Parce que c'est toujours la question, si vous voulez. En quoi je leur suis utile?
Oui, alors je vais peut-être juste reprendre un petit peu, si vous voulez. Donc moi, dans ma carrière, j'ai eu deux grandes étapes. Une étape vraiment purement académique, voilà, où j'ai fait quand même des tas de choses, mais qui me sont en fait maintenant utiles. Donc c'est à la fois de l'informatique théorique. Mm-hmm. Je suis à la fois matheux et informaticien, ce qui est utile quand on fait des calculs.
Oui, voilà, oui, oui. Voilà.
J'ai fait de la combinatoire, donc ce qu'on appelle des maths discrètes. J'ai fait des télécoms mobiles, et puis ensuite, depuis maintenant un peu plus de 20 ans, je me spécialise vraiment dans les systèmes complexes.
Voilà. Les systèmes complexes.
Alors, j'ai eu la chance, en fait, ça a été ça l'élément vraiment déterminant, de rencontrer un monsieur, voilà, que le grand public connaît pas, qui s'appelle Jean-Louis Dornstetter, et qui était le père du GSM. Et c'est lui qui... J'ai bossé pendant 7 ans avec lui. Voilà, donc, il a terminé sa carrière comme directeur de la R&D de Nortel Networks, voilà, qui était basé à Paris. Voilà, en fait, on avait une très grande entreprise de télécom mobile en France, qui a disparu suite au fait que l'État français est obligé à faire une joint venture avec Nortel, et puis Nortel a disparu parce qu'il a fait casser tout le dispositif suite à des malversations de son PDG. Voilà, ce qui fait que ça a fait disparaître l'industrie des télécoms un peu solide qu'on avait en France.
Ah oui, parce qu'il y avait des gens qui étaient de bonne qualité.
Oui, oui, bien sûr. Enfin, surtout, dans Chatter, si vous voulez, il y a le monsieur qui a normalisé ce qu'on appelle la couche radio, c'est-à-dire c'est tous les protocoles qui permettent à un téléphone mobile de dialoguer avec l'antenne. Donc, grosso modo, c'est toutes les communications qui sont faites à travers l'air, si vous voulez.
Ah oui.
Et donc c'est la partie qui n'est pas filaire. Et j'ai eu la chance de bosser pendant 7 ans avec lui. Il me refoulait les problèmes un peu difficiles et j'ai essayé de les résoudre. Et donc, ça m'a permis de comprendre comment fonctionne un réseau radio mobile. Et Dornstetter, à la fin de sa vie, il s'est fâché avec toute sa hiérarchie, parce que devant les 204 dirigeants de Nortel, il a grosso modo dit que la stratégie de l'entreprise, c'était de la connerie en barre. Et suite à ça, il a quitté.
Et qu'est-ce qu'il est devenu?
Il a été réembauché par une boîte taïwanaise comme directeur technique. Voilà. Et donc, il est allé dans les semi-conducteurs ensuite. Après, j'ai quitté de vue. C'était quelqu'un d'assez amusant parce que c'était un ingénieur à l'ancienne. Et pour vous donner une anecdote, je lui passe un jour un coup de fil pour l'inviter à l'époque, j'étais encore dans le monde académique. Je lui passe un coup de fil pour l'inviter à une soutenance de thèse. Voilà. Et il commence à me dire, ah, Daniel, j'ai eu un tas de boulot. Et puis après, je discute avec lui. Ah, ok, c'est parce que c'est toi, je vais venir. Alors il s'amène et quand je le vois, j'étais à Jussieu à l'époque, il avait une barbe de plusieurs semaines. Alors que d'habitude il était imberbe. Alors je lui dis, tiens, si tu te fais pousser la barbe, et il me dit, ouais, c'est un pari stupide. Je suis actuellement en train de développer une des nouvelles solutions mobiles pour Nortel. Mais j'ai vu mes ingénieurs ce qu'ils faisaient, j'ai tout benné et j'ai tout repris moi-même. Et maintenant c'est moi qui code 95% de la solution. Et je me suis juré à moi-même que je me raserais la barbe que quand j'aurai terminé. Oui. Donc ça, c'était
Oui, c'est un homme.
le genre de personnage. Et il était directeur de la R&D de Nortel. C'est-à-dire, il faisait partie du top 10 du management. Vous voyez. Donc c'était un des ingénieurs à l'ancienne qui faisait lui-même. Voilà,
Qui faisait lui-même et qui
qu'on
voulait
trouve.
comprendre. Mais vous savez, c'est, j'ai vu quand, on en parlera sûrement, mais quand il y a eu des problèmes dans l'industrie nucléaire en France, d'un seul coup, moi j'ai l'impression physiquement que l'industrie nucléaire française était grosso modo entre Lyon et Grenoble. Vous voyez, c'était à peu près là, il y avait à peu près tout le monde qui était là,
Un peu plus haut.
un peu plus haut aussi. Et il y avait des tas d'agents, il y avait des tas de gars qui avaient été dans les arts et métiers, qui étaient ingénieurs
Tout à
des arts et
fait, tout
métiers.
à fait.
Donc vous aviez le type en haut, là, qui avait sans doute fait normal sup ou polytechnique
C'est
ou centrale.
plutôt Polytechnique ou
Plutôt
Centrale en général.
centrale, oui. Et puis ensuite, il y avait vraiment les gars qui mettaient le main dans le cambouis. Donc il y avait plusieurs étages de connaissances. Et on a retrouvé ça, après ça, tous ces ingénieurs des arts et métiers, il y en a plein qui ont monté des petites boîtes, parce qu'ils se sont dit, mais bon, bah, ça marche plus le nucléaire, bah, on me dit que j'en ai plus besoin de moi, donc j'ai investi dans l'une qui fait par exemple dans la récupération de la chaleur fatale, vous savez ce qui est rigolo. J'ai mis un peu d'argent, mais je veux dire par là, c'est, on a vu comment la disparition dans le fond, d'une industrie parfaitement viable et qui était bien menée, a amené à une espèce d'essaimage, ça crée des boîtes. Donc, quand une industrie disparaît, c'est pas automatiquement une mauvaise nouvelle parce qu'il y a des tas de gars qui sortent et qui vont faire autre chose, quoi.
En général, ça pose quand même des problèmes parce
Oui, il y a beaucoup de
que
problèmes.
ça casse des filières. Hein.
Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'arrêt métier dans l'industrie nucléaire, quoi. Donc, ils sont plus là, quoi.
Voilà. Sinon, pour revenir à votre question à laquelle j'ai pas répondu, donc moi, en fait, après avoir quitté, je dirais, ma période académique, je me suis lancé il y a maintenant un peu plus de 15 ans, voilà, dans une expérience entrepreneuriale en effet, où j'ai créé en fait un cabinet qui fonctionne toujours, voilà, qui emploie maintenant une quarantaine d'architectes et qui fait un métier, voilà, en fait que j'ai créé en France, je pense, c'est l'architecture de système. Donc en fait, on fait le cabinet que j'ai créé, voilà, qui s'appelle Sésame, c'est un cabinet d'architectes de système. Donc c'est ce qu'est au système complexe, si vous voulez, l'architecte de bâtiment pour le bâtiment. Voilà. Donc c'est un métier qui, en fait,
C'est-à-dire où doivent passer les câbles, où doivent passer les camions, où doivent passer tous ces trucs-là?
non, c'est l'architecture de système, si vous voulez, ça consiste à concevoir correctement les grands équilibres dans un système pour qu'après, quand on descend dans le détail, ça marche. Voilà.
Donc vous faites d'abord en quelque sorte le plan d'ensemble et ensuite
Exactement.
vous mettez les vis et les boulons.
Oui, le vis et boulon, c'est tout en
Tout en bas.
c'est tout en bas. Si vous voulez, pour donner un exemple, je vais prendre un exemple assez simple. Si on prend une voiture, par exemple, un véhicule, ça se décompose en un certain nombre, ce qu'on appelle des sous-systèmes, qui vont correspondre en fait à des disciplines d'ingénierie différentes. Donc il y a le moteur, ça s'appelle le groupe moteur-propulseur. Donc ça permet au véhicule particules de bouger. Vous avez toute la partie, toute la caisse, voilà, la carrosserie, l'habitacle, voilà, qu'il faut équiper, toute la partie logicielle qu'on met à l'intérieur, voilà, et puis voilà, un certain nombre d'autres choses. Et grosso modo, voilà, une voiture, ça se décompose en 6 sous-systèmes, voilà, qui correspondent à 6 départements dans.
Et donc, il faut ensuite que ces 6 sous-systèmes soient compatibles les uns avec les autres.
Il faut qu'ils fonctionnent bien ensemble. Et tout le problème, si vous voulez, c'est que dans l'industrie, c'est que l'industrie est structurellement silotée. Voilà, et tous ces systèmes techniques qui sont liés les uns aux autres. Donc ça peut générer des situations assez cocasses, voilà, et incompréhensibles, si vous voulez, pour par exemple pour le conducteur. Vous avez un P quelque part, par exemple, je sais pas, sur votre pompe à carburant, et puis votre essuie-glace fonctionne plus parce qu'en fait vous avez des couplages entre les deux à travers le logiciel. Et donc le but d'un architecte, c'est en fait de prendre l'objet dans son ensemble,
les 6 sous-systèmes, et d'en faire un système,
et de comprendre comment tout ça va fonctionner harmonieusement.
Et ça n'existait pas avant, c'était fait au doigt mouillé avant.
Et c'était fait plus ou moins au doigt mouillé, voilà. Alors après, bon, cette discipline, elle vient en fait des États-Unis, ça veut dire, et s'inscrit dans un mouvement qu'on appelle l'ingénierie système, qui est né dans les années 60 aux États-Unis. En fait, tout ça, c'est lié à la Seconde Guerre mondiale, à ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont dû gérer des opérations logistiques d'une ampleur inouïe à l'échelle de la planète. Et puis ensuite, après, quand la guerre froide s'est installée, ils ont commencé à se dire il faut qu'on atomise les Russes avant qu'on soit atomisé. Oui. Et pour ça, ils ont créé des systèmes de contrôle-commande à l'échelle planétaire avec des bombardiers qui observaient. Donc ça, c'était les capteurs qui regardaient ce qui se passait. Ils transmettaient le plus rapidement possible l'information à des postes de commandement qui ensuite pouvaient déclencher des ripostes.
Oui. C'est-à-dire que c'était les fameux U2 qui volaient très haut comme ça.
Voilà, donc ça, c'est une boucle de contrôle commande, si vous voulez. Et pour réussir à penser ça, il a fallu des méthodes. Et donc les Américains sont les premiers à commencer à avoir inventé des méthodes rigoureuses pour architecturer, ingénierer des systèmes d'énorme taille. Ensuite, ces méthodes sont passées dans le civil à travers la NASA. La NASA, dans les années 70, a publié ce qu'on appelle le NASA System Engineering Handbook, qui met à disposition du grand public, professionnel, ces méthodes. Et ça a donné naissance à tout un corpus de connaissances, voilà, qui s'est diffusé dans le monde anglo-saxon. Dans toutes les universités américaines, il y a des départements d'ingénierie système, on apprend cette discipline. Et pendant ça, en Europe, je pense qu'on devait être en train de reconstruire, si vous voulez, donc on ne s'est pas du tout intéressé à ça. Force est de constater, si vous voulez, qu'au début des années 2000, il n'y avait absolument personne qui connaissait cette discipline en France.
C'est étonnant, parce que c'est quand même 60 ans après la Deuxième Guerre mondiale, ou 50 ans, oui.
Alors moi, j'ai eu la chance, si vous voulez, c'est en 2002, il se trouve que Thales avait décidé d'investir en ingénierie système dans le monde académique. Ils ont créé une chaire industrielle à l'IX, voilà. Et je trouve que j'étais le seul qui avait été intéressé à ça à cause de mon expérience passée, voilà, dans les télécoms. Je voulais faire des trucs un peu utiles, je trouvais ça rigolo, et donc j'ai été élu, voilà, à la tête de la chaire d'ingénierie des systèmes complexes de l'IX.
Elle existe toujours?
Ouais, plus ou moins, mais comme les collègues qui ont repris, ça fonctionne pas comme ça fonctionnait quand j'étais à sa tête. Et puis petit à petit, bon, moi j'ai, dans le cadre de cette chaire, j'ai développé des méthodes, plein de relations avec l'écosystème industriel français. Et puis après, à un moment donné, je me suis aperçu que le système académique français ne permettait pas d'aller plus loin.
Tiens donc.
Voilà. Je me suis dit, allez, je vais me lancer. Et donc, ça m'a amené à créer...
Vous avez quel âge quand vous avez découvert ça?
Je devais avoir la cinquantaine. Voilà.
C'est bien. Voilà. Vieux motard que jamais, quand on dit.
Je me suis lancé. Alors, il se trouve que j'avais d'abord créé une association qui a pour essayer de disséminer acheminer la bonne parole. Et dès qu'on a commencé à communiquer, un peu comme vous, si vous voulez, il se trouve que Safran est venu vers moi et m'a demandé de monter un gros programme de formation de leurs ingénieurs architectes systèmes, qui fonctionne toujours. Voilà, en 2000, ça va être en 2011, je me suis lancé, donc j'ai créé ma boîte. Et actuellement, c'est le premier cabinet de France. Voilà, il y a une quarantaine. Alors moi, je l'ai vendu récemment, voilà, mais il y a une.
L'avez vendu parce que vous voulez faire autre chose,
parce que je voulais faire autre chose. Oui, tout à fait. Parce qu'à titre personnel, j'étais un peu arrivé, voilà, au bout.
Exactement.
Voilà.
Dès qu'on a cessé d'apprendre, il faut faire autre chose.
Je suis pas du tout. Si vous voulez, je pense que je suis un très bon manager dans les périodes de création et un très mauvais manager quand ça devient.
Ah ben ça, je comprends ça tellement bien.
Dès que ça devient
routinier, vous emmerdez, quoi.
Voilà, c'est pas...
Il faut parler aux gens. Il faut s'occuper de leurs problèmes de santé. Quand est-ce qu'ils vont prendre leur congé vacances. Alors tout ça, c'est pas passionnant, mais la création est infiniment intéressante.
Voilà. Donc j'ai passé 10 ans en fait à prototyper des tas de choses et à tester des tas de choses avec beaucoup d'industriels. Et donc finalement à diffuser.
Alors on nous dit qu'il n'y a plus d'industrie en France. Expliquez-moi que c'est pas vrai.
Alors c'est compliqué, ça dépend des secteurs. Donc la réponse est ni oui ni non. Voilà. Il y a des secteurs où la France fait partie des leaders mondiaux. Voilà, c'est typiquement l'aéronautique. Hein, c'est-à-dire que ce soit en aviation civile ou au niveau des hélicoptères.
Même les avions militaires chez Dassault, ils ont l'air de bien se débrouiller.
Tout à fait. Alors ça, je connais moins bien parce que j'ai beaucoup travaillé. Je travaille encore pour Airbus et Airbus Hélicoptères. Dassault Aviation, j'ai un peu travaillé pour eux, mais pas trop. Donc je connais moins bien. Mmh. Ils sont leaders aussi, c'est moins connu, des jets privés, qui est un métier aussi très différent de l'aviation militaire. Voilà. Donc en aéronautique, je pense qu'on a une énorme base. Alors il faut savoir qu'en aéronautique aussi, il n'y a pas que les constructeurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les fournisseurs de premier rang, donc les tier 1. Et là, on a un des leaders mondiaux avec Safran. Qui est une boîte que moi personnellement je considère comme absolument magnifique.
Ceux qui font plutôt le moteur.
Oui, alors ils font tout en fait, si vous voulez. Safran, il y a la partie moteur, voilà, Safran Aircraft Engine, c'est l'ancienne Snecma. Vous avez Safran Landing System, donc ils s'appellent tous selon une partie de l'avion, Safran Landing System, Safran Seats, voilà, ils ont racheté Zodiac, ils ont récupéré les sièges, ils font l'avionique, ils font les moteurs d'hélicoptères, enfin si vous voulez, donc ils ont gros, à part le gros œuvre, c'est-à-dire le fuselage, ils font quasiment toutes les parties à valeur ajoutée dans l'avion, ils les font. Voilà.
Après, on m'a expliqué, je vous pose des questions, que c'était très difficile de faire des moteurs pour des avions de combat, etc., parce que la température était tout à fait exceptionnelle, était très très haute, et que tout le monde ne maîtrise pas les méthodes avec la température.
Alors, les moteurs pour les avions de combat, je connais pas trop bien. Voilà, comme je vous dis, j'ai pas travaillé sur les avions militaires, sauf sur la maintenance des avions militaires, mais ça c'est autre chose. Sur les avions civils, en revanche, ça je peux vous confirmer que les moteurs c'est une des parties les plus difficiles. Voilà, il y a très peu d'entreprises dans le monde, ça se compte sur le doigt d'une main, qui savent faire des moteurs d'avion. Actuellement, par exemple, pour donner Safran, malheureusement, ils ont essayé à la demande d'ailleurs Dassault Aviation, ils ont essayé de développer un nouveau moteur pour un nouveau type de jet privé, ils se sont plantés. Mais alors que c'est le leader du moteur d'avion dans le monde, c'est-à-dire le LEAP, ou le CFM, c'est les moteurs d'avion les plus vendus au monde. Alors, il y a une concurrence chinoise aussi qui commence à naître.
Voilà, ils sont crédibles ?
Pour le moment, non. Mais
on disait qu'ils n'étaient pas crédibles il y a 10 ans pour les voitures. Ouais,
pour vous donner un exemple, moi, j'ai un de mes anciens collègues à l'université de Beihang, à Pékin, qui m'a fait visiter son atelier, entre guillemets.
Son laboratoire.
On lui a donné l'équivalent d'un milliard d'euros pour faire une maquette de moteur d'avion à l'échelle 1.
Ah ouais.
Et donc, leur objectif, voilà, c'est de développer cette technologie. Et dans un autre, par exemple, oui, dans les semi-conducteurs, pour donner quelques exemples, dans les semi-conducteurs, actuellement en Europe, on a l'unique société qui est capable de fabriquer les machines qui sont
Oui,
utilisées.
ils
Voilà,
sont
qui
en
est
Hollande,
en
non?
Hollande, exactement. Ben, il y a un projet secret chinois qui est pas très, sur lequel ils ne communiquent pas beaucoup pour essayer de fabriquer un concurrent de cette société. Vous voyez.
Oui, parce que cette société, si je comprends bien, fonctionne avec des brevets américains.
Tout à fait, oui.
Donc, si on n'a pas les brevets américains, ben on peut rien faire. Donc, les Chinois sont en train de dépenser des dizaines et centaines de milliards pour arriver à l'indépendance dans le domaine des semi-conducteurs. Donc,
Tout
ça,
à fait.
c'est. Alors, vous êtes aussi assez présent en Chine. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas?
C'est
Vous
bon,
avez
c'est comme toujours,
renseigné?
non, pas du tout. Donc c'est comme toujours, c'est vrai,
Le fruit du hasard?
c'est le fruit du hasard. Voilà, il se trouve que Dassault Systèmes, avec qui je travaille depuis, ouais, qui est notre géant national dans le logiciel pour l'industrie. Voilà, c'est aussi, on est plus du tout dans le logiciel, disons, grand public, dans le
Non.
logiciel professionnel classique. En revanche, dans le logiciel pour l'industrie, bah, Dassault Systèmes est le leader mondial, et donc ils sont présents partout. Et il se trouve qu'ils avaient un problème avec un de leurs clients en Chine, qui était Huawei. Ils essayaient de leur vendre là, des outils justement d'architecture système, on s'appelle d'ingénierie système dirigée par les modèles. Et ça marchait pas très bien. Et donc ils m'ont demandé d'aller là-bas, voilà,
Allez voir.
pour leur montrer ce que c'est et comment ça fonctionne et comment on s'en sert pour faire de la vraie conception.
Parce que Huawei, ils ont eu quelques ennuis avec, on avait
Ouais, mais
essayé de mettre en.
c'était il y a 8 ans. Voilà.
C'était à 8 ans, mais on a cru qu'ils allaient plonger, et puis hop, ils sont partis sans rien dire.
C'est une boîte très 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 agile. Et donc voilà, donc j'ai bossé à 8 ans en étant amené par Dassault Systèmes avec Huawei. Et après, ils m'ont repéré et ils m'ont demandé de travailler pour eux, voilà, de faire un certain nombre de missions. Et donc j'ai bossé pendant à peu près 6 ans, voilà, avec
Ah
Huawei.
oui.
Et puis ensuite, petit à petit, bah, si vous voulez, en Chine, le business se fait pas du tout comme en Europe.
Vous m'étonnez.
Mais je crois que vous êtes basé à Hong Kong aussi pour de vos
On est basé
structures.
à Hong Kong, on a
Voilà,
un
donc
bureau à Pékin. Et d'ailleurs,
vous
toutes
devez
nos
connaître.
équipes sont en réunion à Pékin en ce moment, parce
Vous devez
qu'une fois
connaître.
par an, on réunit les gens dans un endroit. Cette année, ça a été Pékin.
Voilà, donc vous devez connaître.
Un peu.
Et donc petit à petit, si vous voulez, fil en aiguille, j'ai développé mon Guangxi, voilà, comme on dit en chinois, et j'ai été connu par d'autres boîtes, et donc j'ai commencé à travailler avec d'autres boîtes. Voilà, donc actuellement, j'ai 4 ou 5 clients en Chine, voilà, réguliers, là, que je vois de manière régulière.
C'est toujours pareil. C'est curieux, les Chinois, si vous voulez, ça se passe beaucoup sur la confiance. C'est-à-dire
Oui, tout à fait.
ils vous aiment bien personnellement.
Exactement.
Nous, avec mon fils, on est allé en Chine, donc en 80. C'est juste après à Hong Kong, vous savez, le transfert de la souveraineté de l'Angleterre à la Chine, là. Et tout le monde s'en allait de Hong Kong. Et nous, tous deux, on est arrivés en disant, on arrive à monter une société qui va vous expliquer ce qui se passe en Chine, ce qui était rigolo. Et ils s'en souviennent encore. Et pendant que tout le monde se barrait, vous arriviez. Donc,
Et oui, moi c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire
on vous aime bien parce que.
ben ils ont vu, enfin moi en tout cas en ce qui me concerne, si vous voulez, ils ont vu que j'ai été toujours là, voilà,
Voilà,
même dans la situation, voilà, pendant le Covid où ça a été un peu
Et vous étiez
compliqué.
là pour le long terme, c'est-à-dire pas simplement le simple fait, ça paraît idiot ce que je veux dire, mais ça n'est pas le simple fait qu'un père et son fils viennent travailler ensemble, ça veut dire que le père envisage le temps long, il lui
Non,
reste 10 ans
d'accord.
à travailler, puis ensuite il va prendre sa retraite et jouer au golf sur la Côte d'Azur. Non, non, non. Donc si vous voulez, le truc de prendre le temps long, c'est un machin que les Chinois aiment beaucoup.
Oui. Puis je trouve que ma femme est chinoise aussi, mais ça a joué aucun rôle, voilà,
Oui.
dans mes relations avec la Chine. Mais c'est vrai que, enfin, maintenant, au début, ça a été horriblement dur, voilà, parce que
Ils sont pas
on
sympas.
était plus ou moins invisibles. Et en fait, maintenant, en fait, disons, le modulo le fait que le business se fait pas du tout en Chine comme en Europe, voilà, moi, mes relations avec mes clients chinois sont tout à fait normales, quoi. Je veux dire, comme ici, hein, il n'y a pas de différence.
Mais c'est aussi les relations. Ce qui est très différent, c'est là. Il y a une compétition intense au niveau en bas. Les relations avec l'État sont importantes, mais pas aussi prégnante qu'elles peuvent l'être en France. Donc, je veux dire, c'est pas du tout. C'est une société où on peut être très libre quand Si on se fait pas voir.
Quoi, oui, tout à fait. Et puis, il faut ça. Enfin, le truc qui est assez, disons, caractéristique, c'est qu'il faut être capable de s'adapter en permanence.
Voilà.
Si vous voulez, moi, une anecdote, par exemple, il y a un jour, voilà, avec les gens avec qui je travaillais chez Huawei, c'était sur des sujets d'optimisation du manufacturing, ils me disent, il y a un des très hauts responsables, visiblement, ils avaient horriblement peur, oui. Qui veut te voir. Je leur dis, ouais, mais c'est à quel sujet? Ah, c'est juste une conversation à bâton rompu, voilà, comme on a actuellement. Et je leur dis, mais vous êtes sûr qu'il ne faut pas que je prépare quelque chose? Et non, t'inquiète pas, c'est juste discussion ouverte, voilà. On arrive au moment T, j'entre dans la salle, les premiers mots, voilà, c'était un assez haut dirigeant de Huawei, le premier mot qui me dit, c'est please show you your slides. Montrez-nous vos diapositives. Vous voyez, j'avais rien préparé, donc bon, il faut surtout pas dire. Attendez, c'est quoi cette histoire? Oui. Donc, je lui ai fait une présentation, voilà, totalement improvisée, qui s'est très bien passée. Et ça, c'est le genre de choses, vous voyez, qui se passe quasiment en permanence en Chine.
Quoi. Oui, c'est-à-dire que ils ont très peur de la hiérarchie, mais en même temps, enfin, bref, ils la respectent.
Oui, tout en la respectant pas.
Mais en même temps. On fait attention à ce que dit Pékin, mais la capitale est loin et les montagnes sont hautes. Vous savez, c'est-à-dire qu'on reste libre ici, mais il faut quand même faire attention. Il ne faut pas être trop indépendant par rapport. Donc, vivre une vie de Chinois, il faut être assez souple, assez habile.
Puis en tout cas, moi, ça m'a donné un bon poste d'observation pour justement pour parler d'aéronautique.
Alors, parlez-moi de la Chine aujourd'hui, parce que nous, on dit à nos clients qui sont en train de connaître une espèce de révolution industrielle, qu'ils ont mis beaucoup dites-nous ce que vous en pensez, cette espèce de boom industriel qui se passe en Chine.
Si vous voulez, c'est comme toujours, ma réponse va être différenciée, si vous voulez, parce que. Ça dépend des secteurs.
Ça dépend des secteurs.
Voilà. Il y a des secteurs, si vous voulez, par exemple, tout ce qui est, par exemple, télécommunications mobiles dont je parlais. Par exemple, j'ai travaillé avec Huawei sur la fabrication de serveurs informatiques. On est complètement loin de l'image d'Épinal qu'on essaie de faire passer en France, avec des tonnes de petits Chinois sous-payés, si vous voulez.
Et qui font des t-shirts.
Et qui font des t-shirts, voilà. les chaînes de production de Huawei sont complètement automatisées. Voilà,
ils ont des usines noires, d'ailleurs, dans lesquelles ils n'ont pas de lumière.
Si vous voulez, le seul endroit où vous voyez des gens, c'est quelqu'un qui supervise un peu l'ensemble. Et puis à la fin, il y a un manutentionnaire qui prend des boîtes et qui les met dans des camions. Voilà. Sinon, tout le reste de la chaîne, elle est complètement automatisé. Donc
le coût du travail, c'est pas leur problème.
Alors, et le coût du travail, accessoirement, disons, ce que gagne un ingénieur chinois, c'est pas très différent de ce qu'il a dans sa poche. Voilà. Mmh. C'est pas très différent de ce qu'a un ingénieur français de sa poche. C'est-à-dire le coût du travail, en tout cas, ce que gagnent les gens. C'est
le niveau de vie.
Ouais, c'est très proche. Non, ils ont un niveau de vie supérieur.
Parce que ça coûte beaucoup moins cher.
Ça coûte beaucoup moins cher. Donc, un salaire équivalent. Disons, mais les salaires sont équivalents. Nominalement, vous voulez. En revanche, les charges sociales sont un peu différentes. Voilà.
Oui.
C'est-à-dire, le coût du travail global, il est quand même nettement moins cher, deux fois moins cher qu'en Chine, qu'en France, à peu près. Mais pour, quelque part, un gain qui est similaire. Voilà.
Ouais.
Donc ça, c'est vrai qu'il y a une vraie économie. Mais surtout, la grosse économie dans beaucoup d'industries, c'est l'automatisation. Ça veut dire parce que voilà, tout est robotisé de manière vraiment impressionnante. Donc ça marche pour pas mal d'industries. Voilà. Après, si vous voulez, sur les industries qui sont devenues un peu des commodités. Voilà. Mmh. Donc si je prends l'exemple d'un ordinateur, un ordinateur en tant que système, c'est extrêmement simple. Voilà, il y a une centaine de composants dedans. Voilà, c'est pas une architecture très très compliquée. Donc n'importe qui est capable de fabriquer ça une fois qu'il sait comment ça fonctionne. Idem pour les composants télécom, si vous voulez, on les a tellement standardisés en Europe, en fait, que voilà, ils deviennent faciles à copier. Mmh. Et quelque part, l'IP qui se trouve dedans, elle a un peu disparu parce que du fait de la standardisation. En revanche, dans d'autres domaines, l'aéronautique typiquement, c'est un peu plus compliqué. Donc actuellement, par exemple, Comac, qui est la société chinoise qui fait des avions commerciaux. je pense qu'ils sont encore loin d'une société comme Airbus. Voilà.
Parce que Kovac, ils viennent de sortir un premier...
Il y a le C929 et le CR929, qui sont des copies de la 320. Oui. Voilà. Donc on pense qu'ils ont récemment désossé un A320 et ils ont essayé de le refabriquer à l'envers. Alors le problème avec cette stratégie, ça marche quand les systèmes ne sont pas trop compliqués, mais il faut savoir qu'un avion, c'est pas simplement l'objet qui vole. Un avion, pour pouvoir le faire voler, il faut ce qu'on appelle un certificat de conformité,
oui.
Qui est délivré, qui est issu d'un processus de certification. Donc en Europe, il y a des autorités de certification au niveau européen, il y en a une autre équivalente au niveau des États-Unis. Pour faire certifier l'avion, il faut démontrer que l'avion est sûr. C'est-à-dire, grosso modo, qui ne vous tue pas avec une certaine probabilité.
Oui, ce qui paraît assez raisonnable comme demande.
C'est 10-7 par heure de vol. Donc, quand il y a un événement catastrophique, de probabilité faible, il faut que l'avion résiste et ne tue pas les gens qui sont dedans. Et pour être capable de faire cette certification, il faut faire des dossiers de certification, des preuves. Il faut démontrer la fiabilité du système. Et pour donner disons les avions classiques Airbus, si on imprimait tous les dossiers de certification, ça fait deux fois la distance de la Terre à la Lune.
Ah ouais.
Donc c'est des dossiers gigantesques. Et puis il y a la doc technique aussi qu'il faut fabriquer. C'est-à-dire pour les pilotes, faut former les pilotes. Donc vous avez de la documentation, il doit décrire comment est l'avion. Tout ça, faut l'embarquer. Donc à côté de l'objet physique, vous avez une tonne
d'informations,
si vous voulez, qui sont...
Et que vous avez qu'avec le temps, finalement, l'habitude, ouais. Les process,
ouais,
tout
et,
ça.
Et donc, le problème, si vous voulez, en Chine, c'est que comme ils ont fabriqué l'avion à l'envers, ils ne savent pas pourquoi il est sûr. Vous voyez,
ah oui.
Donc il y a des choix de conception qui ont été faits par les ingénieurs d'Airbus qu'on ne peut comprendre que dans une logique de sûreté de fonctionnement. Par exemple, toutes les chaînes de transmission de données, elles sont quadruplées. Vous voyez,
quadruplées.
Oui, quadruplées.
Doublées, ça suffit pas.
Ça suffit pas. Voilà. En fait, on les double, et puis après, on les redonde encore. Voilà. Et ça, c'est pour pouvoir atteindre la probabilité 10-7.
Si vous voulez, donc ça veut dire quasiment zéro.
Ouais, ça, pas tout à fait.
Pas tout à fait. Enfin, ça peut arriver.
Je vais pas faire peur à vos auditeurs, mais ça veut dire, si vous voulez, sur des flottes de la taille d'Air France, vous vous autorisez à avoir quand même une dizaine d'incidents potentiels par an. Vous voyez.
Incident, mais tout le monde n'est pas tué.
Non, après, qui pourrait conduire à une situation catastrophique.
Ce qui n'est pas négligeable.
Mais il faut savoir que si on voulait faire descendre le truc plus bas, 10-8, dans ce cas-là, les avions coûteraient trop cher.
Oui.
Donc en fait, il faut faire un trade-off, si vous voulez, entre le coût et la sûreté de fonctionnement.
Vous savez, c'est ce que disait Thomas Sowell, que j'aime beaucoup, qui est cet économiste noir aux États-Unis, qui est génial, qui a 93 ou 94 ans. Il disait, les solutions, ça n'existe pas. Il n'existe que des trade-offs.
Oui, exactement. si vous voulez, pour revenir au métier d'architecte, un architecte, ça fait des trade-offs.
Et c'est ça. Donc, vous faites des trade-offs, compte tenu du coût, compte tenu de la probabilité. Et c'est ça que vous vendez. Dans le fond, je vais vous expliquer comment bâtir un système qui sera rentable et pas dangereux et qui tiendra, quoi.
On dit en général, si vous voulez, alors en français, ça se traduit pas très bien, mais en français, c'est doing right, the right system.
Oui.
Donc c'est faire bien le bon système. Oui. Si vous voulez, donc la difficulté du métier de l'ingénierie, c'est d'abord faire le bon système.
Oui.
Si vous voulez, il y a des tas d'exemples, si vous voulez, où en fait, on a sorti des systèmes, en fait, qui n'ont pas rencontré leur marché.
Oui.
Donc le premier truc qui est important de maintenir, c'est le lien avec le pourquoi, quelque part.
La practicabilité du système,
et,
que ça marche.
Voilà, exactement. Enfin, le besoin. Voilà,
le besoin.
Il faut que ça serve à quelque chose. Et c'est pas facile du tout, parce que ce besoin, on peut le perdre en cours de route. Oui, pour donner une anecdote.
On peut se tromper, on va faire un truc pour un besoin qui n'est pas là.
Ouais, après, je vais vous donner quelques anecdotes.
Allez-y.
Marrantes, par exemple. Ouais, dans les cahiers des charges du ministère de la Défense, le ministère de la Défense commande des véhicules, par exemple, aux fabricants de véhicules militaires.
Ouais.
Et ces cahiers des charges, si vous voulez, on les copie-colle d'une année à l'autre. Voilà. Et donc, par exemple, il y a une exigence qui a traîné dans les cahiers des charges qui était le véhicule doit être peint en vert.
Pain en verre.
Pain en verre, voilà.
C'est pas utile dans les déserts.
Oui, ben voilà, exactement. Donc, sauf que comme on le copiait-collait, parce qu'on avait oublié le pourquoi, si vous voulez, on s'est retrouvé avec ce truc-là au moment donné où votre remarque, c'est une remarque d'architecte, parce que oui. Vous êtes remonté aux besoins.
Voilà. Oui.
Et donc ça traînait, et plus personne savait pourquoi. Et bien sûr que c'était parce que il fallait qu'on voit pas le véhicule quand il était dans des forêts, voilà, dans des environnements européens qui sont plutôt verdoyants, alors que dès que les champs d'opération vont vers le Moyen-Orient, bah, il vaut mieux qu'ils soient dans des couleurs un peu sable, voilà, des ocres. Voilà. Et ça, si vous voulez, l'architecte, lui, bah, son boulot, c'est de faire exactement ce que vous avez fait, c'est de remonter aux besoins, comprendre le pourquoi.
Vous connaissez l'histoire que racontait Malraux, qui est à mourir de rire, qui est pendant la guerre de 14, dans tous les régiments anglais, il y avait des maîtres chats. Mmh. Il y avait des chats.
Mmh. Ah oui, je connaissais.
Vous la connaissez, celle-là? Eh ben, l'idée, c'est qu'il y avait des chats, parce que, autant dans un cours, les chats bouffaient les cordes des arcs, et qu'il fallait les empêcher. Donc, sept siècles après, il y avait toujours des maîtres chats, mais personne ne savait pourquoi.
Après, vous avez des situations aussi où vous pouvez avoir, alors ça, c'est assez vicieux, des besoins contradictoires.
Ah, ça, c'est très embêtant. Voilà.
Ça veut dire qu'ils font que le système, en fait, il est mort.
Il ne trouve pas de solution.
Ouais, parce qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours de solution à un
problème d'ingénierie.
Oui. Et donc, on peut assez facilement mettre des besoins contradictoires qui font que.
Surtout les hommes politiques, d'ailleurs.
C'est souvent lié à des décisions politiques, voilà, où on demande au système, si vous voulez, de faire papa-maman et d'avoir des choses contradictoires. Vous voyez. La 380M, par exemple, l'État français a demandé au système d'être à la fois d'assurer des missions tactiques et stratégiques. Tactique, stratégique, ça veut dire c'est déplacer des chars à grande distance, vous voyez, sur un terrain d'opération lointain. Donc pour ça, il faut que les moteurs soient puissants et que les trains d'atterrissage soient très rigides, parce qu'il y a une énorme masse à passer. Tactique, c'est jeter des parachutistes sur un terrain d'opération en Afrique où vous avez des pistes d'atterrissage de fortune, vous voyez. Et dans ce cas-là, les trains d'atterrissage rigides, ils tiennent pas le choc, vous voyez, et les moteurs, ils aspirent les parachutistes quand on les lance, ce qui est un peu embêtant. Et
donc,
pour les parachutistes. Et donc, on a des situations, si vous voulez, où vouloir imposer deux choses contradictoires conduisent en fait à un système qui n'existe pas.
Ou alors un système hyper compliqué qui devient hors de prix à gérer.
Hors de prix, ça c'est une autre...
C'est ce qu'on dit du F-35 américain, il paraît qu'il est tellement compliqué que personne ne réussit à le faire voler.
Voilà.
Je sais pas si c'est vrai, mais...
Après, vous avez des situations... Tenez, sur les avions américains, par exemple, vous avez des situations aussi où l'architecture, par exemple, alors c'était pas du F-35, c'était un de ses prédécesseurs, a été mal conçu. Donc il y a eu une situation, si vous voulez, on a voulu l'adapter. Les Suisses ont acheté cet avion.
Oui, mais ça marche pas chez eux.
Ils ont imposé les Suisses, ils veulent que les avions, les trucs qu'ils achètent durent longtemps. Et puis la Suisse, c'est un tout petit pays. Donc en fait, leurs avions, si vous voulez, ils peuvent pas aller très loin et ils doivent prendre, à cause des montagnes, ils doivent prendre beaucoup d'accélération. Voilà. Et donc ils ont imposé grosso modo des contraintes à l'avion qui lui imposaient d'être très très résistant. Et donc les ingénieurs américains se sont dit, il faut qu'on remplace les pièces qui sont faites dans des métaux pas résistants par des trucs un peu plus solides. Et donc partout où il y avait de l'aluminium, ils ont remplacé ça par du titane. Le titane, c'est beaucoup plus dense que l'aluminium.
Oui.
Ce faisant, ils ont changé le centre de gravité de l'avion. Voilà, et il a commencé à avoir des vibrations transverses, si vous voulez. Donc les ingénieurs ont compensé avec de la masse ailleurs. Ça a généré d'autres vibrations. Ils ont recompensé.
C'est arrivé avec un avion de Boeing qui tombait tout le temps.
C'est encore autre chose.
Ils avaient un système qui était contradictoire.
Oui, alors ça c'est aussi. C'est pour vous raconter aussi cette histoire. En tout cas, sur l'avion de chasse américain, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, en changeant quelque chose comme 300 grammes, si vous voulez, d'aluminium qui a été remplacé par du titane, ça a généré des modifications absolument partout. Et après, il a fallu changer le système industriel, le système de manufacturing, parce qu'il n'était plus adapté au nouvel avion. Donc ça, c'est un exemple de mauvaise architecture. Vous voyez, parce qu'on n'a pas pensé pour que ça résiste à des évolutions possibles dans le temps. Ouais.
C'est-à-dire qu'il aurait peut-être mieux valu faire deux avions plutôt que d'essayer de tout faire avec un seul, quoi. C'est un peu la conclusion qu'on en tire. Alors, vous êtes maintenant, vous vous lancez dans de nouvelles aventures, si j'ose dire, puisque vous avez vendu votre boîte. Vous allez continuer à travailler dedans?
Oui, je continue à les accompagner.
Vous êtes allé les accompagner. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
J'ai monté une deuxième boîte.
C'est ce qui est terrible avec l'entrepreneur, c'est que une fois qu'ils ont commencé, ils n'arrêtent plus, quoi.
Donc là, actuellement, maintenant, je faisais de l'architecture. Maintenant, je fais de la simulation. Voilà. Donc, je suis toujours sur des systèmes industriels. Je suis passé, en fait, si vous voulez, dans l'industrie. Ça peut être aussi intéressant pour vos auditeurs. Si vous voulez, il y a des mondes très différents. La première étape, et en général, souvent pour les acteurs académiques, c'est ce à quoi ils confondent l'industrie. La première étape, si vous voulez, c'est l'innovation. Voilà. Oui. Donc là, on essaie d'avoir des idées, pour pouvoir amener de nouvelles technologies, nouvelles idées dans les systèmes qu'on fabrique vraiment. Sont souvent considérées comme les danseuses, voilà, dans le monde industriel. Oui. Voilà. C'est la partie du monde industriel qui est connectée au monde académique. Voilà. Puis ensuite, vous avez une deuxième partie. Ça a été mes clients pendant 15 ans, qui sont les bureaux d'études. Voilà. Où là, vous avez vraiment les ingénieurs. C'est là où la France est excellente. Voilà.
D'accord.
Oui, je pense que c'est vraiment lié aussi au système académique de formation des ingénieurs des grandes écoles, exactement. Donc vous avez les bureaux d'études français, voilà, qui, dans les domaines où ça continue à fonctionner, donc c'est là où il y a le gros des troupes.
Et puis ensuite, donc ça c'est donc les systèmes, l'aéronautique et dans le nucléaire, on a des bureaux d'études.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, il faut systématiquement concevoir, si vous voulez, faire les plans. Voilà. C'est un peu plus compliqué que des plans de bâtiment, mais parce qu'il y a des dimensions fonctionnelles, qu'on n'a pas dans le bâtiment. Et puis après l'ingénierie, vous avez un autre métier qui est le manufacturing,
oui,
qui est la production industrielle en tant que telle. Et après la production industrielle, vous avez tous les métiers des opérations industrielles, c'est-à-dire qu'il faut accompagner le système qu'on a fabriqué tout au long de son cycle de vie. Donc le maintenir, amener des pièces de rechange, voilà, qui est aussi un autre métier.
Vous voyez. Voilà. Et alors, donc aujourd'hui, la France est encore compétente dans la conception, dans les bureaux d'études, dans l'aviation, on est encore...
Dans l'ensemble de la chaîne.
Dans l'ensemble de la chaîne, on est encore...
Oui, dans l'ensemble de la chaîne, sur les métiers où on est encore...
Oui. Alors quels sont les métiers où on n'est plus, où on a été viré?
Actuellement, l'automobile... Il y a encore de très grands constructeurs automobiles en France et en Europe, mais je crois qu'il y a malheureusement il y a une sorte de disruption qu'on commence à voir par les Chinois justement, qui sont liés au fait, si vous voulez, que l'architecture d'une voiture elle a radicalement changé depuis l'arrivée de Tesla.
Voilà,
je pense que c'est Musk, qui a créé la disruption. Si vous voulez, une voiture historiquement c'est de la mécanique. Voilà, jusque dans les années 60, 70. Voilà. Dans les années 70, il devait y avoir pour 5% d'électronique dans une voiture. Voilà. Et petit à petit, l'électronique et le logiciel se sont diffusés dans le véhicule jusqu'à atteindre actuellement, en termes de place, facilement plus de 50%, si vous voulez. Donc, concevoir, donc c'est la conception des tableaux de bord, c'est la conception de tous les systèmes de contrôle commande, voilà, qu'on voit pas, le freinage assisté, les moteurs sont complètement optimisés par du logiciel, si vous voulez. Donc vous avez du logiciel partout, qui contrôle tout, qui contrôle le freinage, qui détecte, voilà, s'il y a des gens devant vous qui vous rentrent dedans, etc. Donc, le logiciel est devenu énorme, mais il s'est introduit dans une logique où le centre de gravité du véhicule c'était la mécanique. Voilà. Et donc Tesla a renversé ce paradigme alors de plusieurs manières, en pensant quelque part, si vous voulez, la voiture comme du soft qui roule. Voilà. Donc c'est un smartphone qui roule, si vous voulez. C'est ça la logique.
Des gens qui font des smartphones en Chine, qui font des voitures aussi, c'est vrai.
Oui, tout à fait. Huawei, par exemple, est un exemple. Et dans cette logique, c'est le logiciel ce qui est le centre de gravité du constructeur automobile. Et si vous voulez, traditionnellement, dans les constructeurs automobiles, les gens qui avaient le pouvoir, c'était les motoristes. Parce que ça, c'est l'organe noble le plus compliqué. Et en fait, on est passé d'un shift où maintenant, c'est les sauveteux, voilà, qui sont les...
Vous appelez les sauveteux, c'est mignon.
Voilà, les ingénieurs logiciels, qui en fait sont les gens qui sont dominants dans l'industrie automobile. Et ça, ce shift, c'est Tesla qui l'a fait. Alors, en introduisant aussi de nouvelles méthodes de conception, si vous voulez, dans le logiciel, on utilise ce qu'on appelle des méthodes agiles, c'est-à-dire c'est des méthodes où on fait des bouclages continus, on fait des petits protos et on avance très vite. Voilà. Alors que la mécanique, on a de la physique derrière, c'est compliqué, faut faire attention. Donc c'est pas du tout la même manière de dérouler des process de conception. Et Tesla a introduit des manières radicalement différentes de faire des véhicules. Et dans nos entreprises européennes, ces nouvelles méthodes et ces nouveaux paradigmes, parce que c'est vraiment un shift architectural complet. Ils ont eu beaucoup de mal à se diffuser. Si
alors que chez les Chinois, qui n'avaient pas vraiment ça encore.
Voilà. Et après, les Chinois ont eu l'avantage, si vous voulez, de repenser le véhicule à zéro.
Ouais.
Parce que, si vous voulez, les architectures véhicules se sont complexifiées petit à petit. Et, si vous voulez, autant les architectures mécaniques, elles étaient extrêmement bien optimisées, parce que vous aviez 130 ans d'histoire, si
bien
vous
sûr.
Voulez. Donc, un moteur, d'un point de vue mécanique, voilà.
Il on y a inventé eu 100, tout ce qui pouvait être
voilà,
fait.
Voilà, on a fait beaucoup de choses dessus et c'est très, très optimisé. En revanche, le logiciel, il s'est développé de manière extrêmement fragmentaire. Ça veut dire on a commencé à équiper du logiciel dans le moteur, puis dans le freinage, puis sur la pompe à essence, vous voyez, et sans vision d'ensemble. Voilà. Et
Musk, il a commencé avec la vision d'ensemble.
Et exactement. Et donc, ils ont pensé à un noyau logiciel qui contrôlait tout, beaucoup plus simple.
Et donc, à la place d'avoir trois noyaux logiciels, ils n'en ont qu'un, mais qui est beaucoup plus
voilà.
efficace.
Et ça limite la câblerie, si vous voulez, parce que. Vous voyez, par exemple, sur un A320, justement, il s'est passé un peu la même chose et vous avez des centaines de kilomètres de câbles. Parce que, en fait, voilà, on n'a pas pensé correctement les choses dès le début. Et sur les voitures, c'est exactement ça. Et donc, les Chinois, ils ont eu le gros avantage du nouvel entrant. Ils ont fait table rase, sont rentrés tout de suite dans le nouveau paradigme logiciel dominant, au lieu d'être mécanique dominant. Et ils ont pensé des architectures. Si vous voyez, moi, j'en avais écrit une sur le papier. Le temps de pour certains constructeurs automobiles français, voilà, le temps que ça pénètre dans les organisations, si vous voulez,
c'est pas les mêmes qui sont au pouvoir.
Ouais.
Celui qui prend la décision, si vous voulez, si c'est un mécanicien qui prend la décision, ça va l'agacer, quoi. Il comprendra pas que c'est l'histoire de logiciel, quoi. C'est comme mon garagiste qui pouvait plus réparer ma voiture parce qu'il comprenait plus rien à la voiture. Parce que c'était plus une voiture mécanique, avec de l'électronique dedans. Mmh. Donc, les pompes.
Tout à fait, oui.
Donc, la deux chevaux, on savait comment ça marchait, mais les voitures aujourd'hui, on sait pas. Et donc, vous allez vous lancer dans des trucs, mais alors. Ça sera plus dynamique, c'est que l'analyse des systèmes, ça sera plus.
C'est de faire des
simulations, c'est de.
Oui, si vous voulez, jusqu'à présent, moi, je travaillais surtout justement avec des bureaux d'études. Mm-hmm. Ça, c'est le livre que vous avez là, il est voilà, centré sur ce public. Si vous voulez, j'ai formé, pour donner un ordre de grandeur, j'ai dû former entre 10 000 et 12 000 ingénieurs voilà, dans le monde, donc sur ces méthodes. Donc ça, voilà, ça. Et donc
Vous avez des disciples.
J'ai des disciples et je sais que ça marche. Voilà, parce que voilà, mes clients ne m'ont pas sorti à coup de bâton derrière.
De temps
voilà.
en temps, il y a le téléphone qui sonne pour vous demander votre avis.
Voilà, donc, exactement. Donc, moi, j'ai tendance à penser que ça sert à quelque chose. Et en plus, on a mis en place des méthodes de formation, si vous voulez, qui sont des formations par l'action. C'est-à-dire, c'est des métiers, si vous voulez, ça ne s'apprend pas par formation académique.
Très intéressant ce que vous dites, parce que moi, l'une des conclusions à laquelle j'arrive, avec la façon dont la connaissance se diffuse, je me dis, mais de plus en plus, l'université, ça va être sur le net, quoi. Il y aura la réalité, et puis on va aller chercher ce dont on a besoin là-bas.
Ouais, c'est encore plus compliqué pour ce métier, si vous voulez. Ça veut dire, moi, la démarche pédagogique que je fais pour former des architectes, si vous voulez, c'est je leur montre comment ça fonctionne sur des petits systèmes d'école, vous voyez, des machines à café, enfin des trucs vraiment très simples. Ensuite, on fait des exercices sur une machine à café un peu plus compliquée avec eux, voilà, pour qu'ils comprennent comment ça marche. Et après, on passe dans la vraie vie. et on les coach, voilà, pour qu'ils mettent en
avant. Et alors, quand ils ont un problème, ils vous appellent en disant là, je coince.
Après, ils finissent par se débrouiller tout seuls. C'est ça l'objectif.
Oui, c'est un peu l'idée.
C'est ça l'idée. Ils m'appellent quand ils ont vraiment des problèmes très très compliqués qu'ils ne savent pas résoudre eux-mêmes. Voilà, ça m'arrive de temps en temps. Voilà.
Donc, vous êtes très content en ce moment-là.
Voilà, oui, tout à fait. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment des approches learning by doing, quelque part. Et donc, ça, je l'ai fait avec des bureaux d'études. Et maintenant, en fait, j'essaie d'appliquer le même genre de technique sur d'autres systèmes. Donc plutôt le système manufacturier et les systèmes de soutien, donc tout ce qui est maintenance. Voilà. Donc actuellement, par exemple, j'ai une grosse mission en cours chez Safran où on essaie de réfléchir d'un point de vue systémique, voilà, sur le système de maintenance.
C'est-à-dire parce que les pièces détachées ou quand les délais, etc. Oui,
ouais, parce que si vous voulez,
la gestion des stocks, ça.
C'est plus compliqué.
Plus complexe.
Plus compliqué que ça.
Parce qu'il faut les produire aussi.
Oui, parce qu'il faut les produire. C'est énorme, si vous voulez. Vous avez d'un côté le produit lui-même, par exemple si on prend un avion, le produit lui-même il a sa complexité, c'est horriblement compliqué. Mais le système industriel qui est derrière, c'est-à-dire le système qui le fabrique, il est aussi horriblement compliqué.
Bien sûr.
Voilà. Parce que c'est des milliers de sous-traitants, c'est des flux logistiques gigantesques. Et après, le système de soutien, c'est le système qui va le soutenir, qui va former les pilotes, former les gens qui font la maintenance. Il faut former aussi, parce qu'il n'y a pas que les constructeurs qui font la maintenance. Fabriquer les pièces de rechange, voilà, les livrer à temps. Tout ça,
c'est un boulot d'enfer.
C'est un système gigantesque, voilà. À l'échelle.
Et en plus des systèmes qui s'entrecroisent.
Oui, à l'échelle de la planète.
Oui, si à l'échelle de la planète. Et des systèmes, si le système de, je sais pas, qui les produit ne réussit pas à les amener à temps à l'endroit où on en a besoin, c'est pas bien utile qu'elle soit pas là, qu'elle soit ici, qu'elle soit pas là.
Tout à fait, oui.
Donc c'est des systèmes d'une complexité rare, parce que c'est la complexité au carré.
Et c'est là où, heureusement, si vous voulez, pour revenir à votre question sur la Chine, où on a encore un avantage compétitif.
Alors pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas...
Justement, parce qu'ils ont... Si vous voulez, les Chinois fonctionnent à l'envers de nous. Les Français fonctionnent par... Ils conçoivent. Ça veut dire, en fait, ils partent d'une idée et ils la traduisent en réalité. Les Chinois font à l'envers, si vous voulez, c'est des pragmatiques, donc ils ont besoin de toucher pour comprendre, et en fait ils partent plutôt du bas. Et sur un avion, si vous voulez, leur manière de fonctionner, elle atteint un peu des limites. Voilà,
c'est intéressant ce que vous dites, parce que...
Après, ils sont, si vous voulez, depuis que je les pratique... Il y a une courbe d'apprentissage.
Ils apprennent vite.
Voilà. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer. Pour le moment, si vous voulez, je pense qu'ils savent faire un avion. Voilà. Ils ne savent pas encore le faire industriellement. Si vous voulez,
parce que. Ils savent pas très bien pourquoi ils tombent pas, quoi.
Ils savent pas le certifier.
Ouais,
voilà. Donc, ils savent pas encore le produire industriellement. Donc, ils savent fabriquer un avion. Ils ne savent pas en fabriquer 60 par mois.
Donc, ils ne font que du sur-mesure, quoi.
Ouais, donc, si vous voulez, c'est une chose de fabriquer un exemplaire, c'est une chose d'en fabriquer actuellement...
Et alors, comment, si vous avez 25 ans, là, ce qui n'est pas mon cas, comment on vient vous voir en vous disant, dites donc, ce que vous faites est très intéressant, je voudrais travailler avec vous, comment je fais? Qui vient vous voir pour votre formation? Qu'est-ce que vous demandez?
Là, pour l'architecture, il faut aller s'adresser à mon ancien cabinet. Donc
oui,
c'est eux qui ont repris ça, ils s'appellent Sésame.
Et alors, ils embauchent quoi? Des polytechniciens?
Pas du tout.
Des gens qui ont fait.
Oui, c'est-à-dire, ça, c'était quelque chose auquel j'ai tenu énormément quand j'étais à la tête de mon ancienne entreprise. Ça veut dire, on ne prenait que des ingénieurs, on ne prenait pas des gens sortis d'école. On prenait que des ingénieurs
qui avaient déjà
une expérience, si vous voulez, parce que c'est un métier, d'abord, vous prenez des décisions, c'est vous aidez à prendre des décisions plus exactement, qui peuvent être extrêmement structurantes. Donc, si vous voulez, moi j'ai piloté, par exemple, la transformation à la fois de PSA et d'Airbus. Donc, si vous voulez, vous avez en face de vous des dirigeants et vous leur dites, c'est comme ça qu'il faudrait faire et pas comme ça. Vous voyez, donc vous prenez des décisions qui sont lourdes de conséquences.
Vous aidez à les prendre.
Après, c'est le dirigeant qui prend la décision. Donc, il faut bien comprendre quelles sont les conséquences de ce que vous dites. Vous voyez, et quand on est dans de l'ingénierie, disons, de terrain, si on n'a pas fait, on peut pas conseiller les gens qui font.
Et ben,
je pense que ça, c'est fondamental. Donc, si vous voulez, des petits jeunes qui sortent d'école, qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que la conception industrielle, ils sont incapables de faire ce métier. C'est des métiers où il faut avoir
la
bouteille.
La plupart des consultants, si vous voulez, ils sont là. Vous avez des consultants qui ont à la limite plus d'expérience industrielle, oui, les mains dans le cambouis, que les gars qui conseillent. Quoi.
Tout à fait. Nous, on parlait d'architecte conseil. Vous voyez, donc, et c'est ça qui permet aussi la porosité, si vous voulez. Ça veut dire.
Vous êtes respecté parce que vous savez de quoi vous parlez.
Oui, exactement. Voilà.
Vous ne faites pas un beau PowerPoint pour expliquer.
Exactement, on en fait aussi.
Mais oui, vous en faites aussi.
Il faut bien. Mais en tout cas, on fait des PowerPoints sur des systèmes réels. Vous voyez, donc.
Et vous avez quel âge maintenant ?
65 ans.
Voilà. 65 ans, vous commencez, vous êtes jeune. vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous. Moi, j'ai relancé ma dernière boîte avec mon fils. J'avais quel âge ? Je devais avoir 20 ans, oui, 82. Ben, j'avais 60 ans, oui. Donc, je me suis dit, c'est la dernière. Et puis, en fait, j'en ai créé deux depuis.
c'est un peu comme ça. Mais ma société actuelle, j'ai créé quand j'avais 60 ans. J'ai démarré à 60 ans.
Oui. Voilà, mais je crois que Sam Walton, qui a créé Walmart, il a lancé sa boîte, il avait 57 ans. Quoi. Et c'est maintenant c'est la famille la plus riche du monde parce qu'ils avaient créé Walmart. Donc, si vous voulez, l'idée que la création est réservée aux jeunes, moi, j'ai un programme politique pour le jour où je vais me présenter à la présidence de la République, c'est place aux vieux. Parce qu'il y en a marre de tous ces jeunes qui sont nuls.
Oui, en tout cas, sur ces métiers-là, si vous voulez, c'est...
Mais il faut de l'expérience.
Il faut de la bouteille, si vous voulez.
Il faut de la bouteille.
Pour
que vous ayez confiance en vous quand vous donnez le conseil.
Bien sûr. Ouais. Et puis, c'est... si vous voulez, il y a des situations, moi je me suis trouvé face à certains de mes clients, si vous voulez, où les problèmes étaient tellement compliqués que la manière dont je pensais la résoudre, par exemple, s'était révélée fausse. Et il a fallu que alors que moi j'étais complètement dans les choux, si vous voulez, franchement le problème était terriblement dur. C'était un système qui débloquait, qui buguait en permanence. Et je pensais avoir compris pourquoi. Et puis en fait, quand j'ai commencé à bosser avec mon client, je me suis rendu compte que mon interprétation était totalement fausse et mon client avait totalement confiance en moi, si vous voulez.
Alors, il fallait surtout
pas à ce moment-là que je perde confiance. Donc là, c'est un peu compliqué parce que vous-même, vous avez plus confiance en vous, voyez.
Mais il faut
faire semblant, voilà.
C'est le chef de guerre qui sort de la tranchée en disant on les aura les gars, mais il est pas certain qu'il va pas ramasser une balle dans la seconde.
Après, j'ai réussi à comprendre au bout d'un certain. Mais il m'a fallu quand même 3-4 semaines pour comprendre ce qui se passait et après. On va mettre les trucs dans la bonne direction. Mais comme c'était tellement compliqué, de toute façon, mon client n'a même pas compris que j'étais en train de faire quelque chose comme ça, si vous voulez. Donc
il ne s'est pas tellement rendu compte que vous étiez dans une période de flottaison.
Voilà. Donc il y a des moments où on a quand même...
Je connais ça dans les marchés financiers. Si vous avez expliqué au client que vous avez tout compris, que son argent est investi et que tout va bien. Et puis, vous réveillez 4 heures du matin glacé en vous disant « Mais je suis sûr de rien du tout. » C'est affreux, ça. C'est affreux.
Après, pour revenir aussi à votre question sur l'industrialisation de la France, on a aussi la chance, vous en parlez très souvent dans vos émissions, d'avoir un certain nombre de boîtes qui ont une surface mondiale.
Et absolument. Qui ont quasiment
plus d'usines en France. Voilà.
Ils ont plus d'usines en France, mais ils ont toujours la masse critique.
Voilà, par exemple, j'ai eu la chance de travailler, d'avoir Schneider Electric comme un de mes clients.
Ils sont très très bons.
Et qui est une boîte absolument remarquable. Voilà, c'est présent sur tous les continents. Donc avec Schneider, si vous voulez, par exemple, chez mes clients en aéronautique, je forme plutôt des ingénieurs français de manière dominante. Schneider, j'ai formé des Chinois, des Japonais, des Hongrois, des Américains. C'est les plus durs.
Et maintenant, pourquoi ?
Pardon ?
Pourquoi les Américains, c'est les plus durs ? Parce que
à former. Parce que oui, quand un Français essaie de les former, si vous voulez, ils vous prennent de haut. Donc après, j'avais une anecdote avec c'est un de mes premiers stagiaires américains de Schneider. Enfin, voilà, au bout de la première semaine de formation, il était très dubitatif. Comme on l'avait obligé, Schneider les avait obligés à passer par la formation, ils se sont mis dans le parcours de coaching, un peu forcé malgré eux. Puis la deuxième semaine, le type, il revient chez moi, il revient en formation, on faisait des semaines de formation bloquées. Il revient en disant, votre méthode, elle est géniale, elle m'a permis de vendre une solution intégrée pour l'hôpital de Philadelphie. C'est super. Et puis ce coup-là, voilà, je l'avais complètement retourné, donc c'était rigolo.
Voilà, mais vous savez, quand ça marche, c'est fou ce que ça entraîne les foules. Alors écoutez, d'abord, je suis très content de vous avoir rencontré, parce que j'avais entendu parler de vous depuis très longtemps par ce bon Didier, avec lequel vous, vous faites des échanges et vous ne vous sentez pas trop perdant, ce qui est bien. Et
Sur ce point, si vous voulez, j'ai eu la naïveté de croire que le système financier, ça fonctionne comme les systèmes ingénierés, et c'est pas du tout la même chose. Voilà. C'est très différent.
Très 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 différent. Et le degré de liberté est beaucoup plus fort dans le système financier pour que ça parte dans tous les sens. C'est ça.
Ouais, le truc qui me frappe, si vous voulez, c'est les niveaux de couplage. C'est-à-dire que dans un système ingénieré, on se débrouille justement pour réduire la complexité de casser le système en sous-système plus ou, qu'on essaie de découpler. Voilà, ils sont pas indépendants, mais on essaie que voilà, quand il y a quelque chose qui se passe sur un système, ça impacte pas trop les systèmes à côté.
Voilà,
c'est tout l'art de l'architecture, c'est ça. Voilà.
Dans le système financier,
c'est juste impossible. Il y a des boucles de rétroaction dans tous les sens. on a du mal à comprendre. Et puis c'est extrêmement bruité. Voilà, donc vous avez un signal utile qui est caché dans une mer de bruit.
Exactement.
Et qui est
c'est de savoir quel est le signal utile.
Voilà,
et de l'isoler.
Et de réussir à l'isoler, à l'identifier. Voilà.
Ouais, ça, c'est tout le boulot.
Et à comprendre quels sont les paramètres clés, voilà, qui permettent de comprendre ce qui se passe.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes obligé de tomber dans un truc qui est tout à fait évident, c'est que vous bâtissez des systèmes robustes, mais qui sont pas très précis. Mm-hmm. Vous pouvez, par exemple, c'est beaucoup plus facile de savoir dans les marchés ce qui va baisser, ce qui a une bonne chance de baisser, que ce qui va monter. Donc, si vous faites un système d'analyse en disant « je veux éviter toutes les baisses », c'est plus facile que de dire « je veux trouver toutes les hausses ». Et donc, moi, tout ce qu'on essaye de faire, c'est dire « si on évite toutes les baisses, on va investir dans ce qui reste et on aura les hausses, on ne sait pas pourquoi ». Donc, il faut aussi une grande modestie vis-à-vis des marchés financiers, parce que si vous n'êtes pas modeste ou si vous n'avez pas le sens de l'humour, il faut faire autre chose.
Mais en tout cas, ce que vous faites, je pense, dans vos travaux, c'est vraiment de l'analyse systémique.
Je suis comme M. Jourdain, vous voyez.
Oui, exactement.
Je fais de l'analyse systémique sans savoir.
Parce que c'est ça qui me frappait, si vous voulez. Et c'est exactement comme ça qu'on fait sur les systèmes industriels. Vous identifiez un nombre limité de paramètres pour comprendre...
Comment
tout ça interagit, quels sont les trucs clés. Ça veut dire, un architecte, son boulot, c'est, si je prends un avion, par exemple, un exemple d'un avion, c'est des millions de paramètres, si vous voulez, qu'il faut fixer.
Ouais.
Mais en fait, il y en a deux ou trois qui sont importants. Si vous voulez. Donc quand on commence à le prédimensionner, par exemple un avion, il suffit de connaître le range, c'est-à-dire la distance standard qu'il va parcourir et le nombre de passagers. À partir de là, si vous voulez, chaque passager, il a un poids moyen, il a un poids moyen de bagage.
Donc vous pouvez faire le fuselage, vous bâtissez tout le reste.
Le range vous définit le volume de kérosène qu'il faut prendre, et donc vous avez à peu près la masse, vous dimensionnez la masse à partir de là, qui est un paramètre de deuxième niveau, vous voyez, qui est aussi structurant, mais qui est un paramètre de deuxième niveau.
C'est pour ça que Didier passe son temps à paramètre de premier niveau, de deuxième niveau, de troisième niveau, parce que je crois qu'en effet, c'est important de dire, par exemple, dans les marchés financiers, paramètres de premier niveau, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser? Et ensuite, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends? C'est de deuxième niveau,
oui,
si j'ose dire.
Exactement.
Mais si vous avez déjà résolu le problème, vous avez une bonne chance de vous en sortir.
Et trouver les paramètres de premier niveau, c'est pas simple du tout.
C'est pas simple du tout, surtout dans le bruit.
Alors, en architecture, si vous voulez, vous avez des règles qui apparaissent, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est vrai sur le système financier, mais par exemple, il y a une règle d'ergonomie qu'on utilise en architecture, qu'on appelle la règle des 777. Ça veut dire 7 fois 7 fois 7, ça doit faire un peu moins de 350, 343, ça doit faire de la part. Cette grandeur, donc à peu près 350, c'est le nombre maximum d'objets que le cerveau humain est capable de comprendre en compréhension immédiate, sous réserve qu'elle ait été correctement organisée. Vous voyez, c'est une règle qui permet de faire des interfaces homme-machine. Vous voyez, ça veut dire, par exemple, donc si vous organisez 350, imaginez que vous êtes un pilote ou, je sais pas, un contrôleur d'une centrale nucléaire, voilà, vous avez des tas de trucs qui clignotent, vous comprenez rien, sauf si vous avez organisé vos voyants, vous voyez, vous les avez regroupés par paquet de 7, que vous avez organisé, vous avez mis 7
petits paquets
de 7. Je crois
que c'est vrai aussi des relations humaines. Voilà. On dit que un individu normal connaît 350 personnes, quoi.
Ouais.
Parce qu'après ça, on est tout perdu, quoi. Donc, ouais. C'est pour ça que les politiciens sont tous fous, parce qu'ils en connaissent trop.
Donc, quand on applique cette règle des 777, ça vous dit que, et ça marche en plus empiriquement, qu'en fait, il y a en général 7 paramètres clés
pour quel système. Je ne savais pas ça, mais quand j'ai commencé en 73 et 74, à faire ces analyses systémiques, j'ai commencé avec 7.
Ah, ben ouais.
Oui, c'est marrant, il y avait la production industrielle, le chômage, vous voyez, les sécurités. Et puis quand Didier les a testés 40 ans après, il m'a dit en fait c'est les 7 meilleurs. Mais pourquoi je suis arrivé à ça? C'est un coup de bol ou un coup d'intuition? Mais je n'avais jamais su pourquoi.
Ouais, mais dans le modèle du monde, par exemple, c'est un systémicien américain qui a inventé ça. Il y a 7 sous-systèmes pour décomposer le monde. Voilà,
la
production
marrant,
industrielle.
7, c'est un chiffre majeur dans la Bible.
Ouais, ouais.
Moi, par exemple, quand je fais des analyses, si vous voulez, pour le cycle, je commence toujours avec 7 ans, parce que je me dis, c'est dans la Bible, hein, 7 ans de bavage grasse, 7 ans de bavage maigre, on nous a dit quelque chose, peut-être ça marche.
Je n'en tirerai pas des conclusions.
Voilà. Non, mais c'est marrant.
Pragmatiquement, voilà, c'est quelque chose.
Et quand vous réfléchissez là-dessus, vous dites, c'est quand même curieux que le premier cycle décrit dans l'histoire était un cycle à 7 ans.
Ouais.
C'est quand même rigolo parce que.
Mais si vous voulez, c'est. Moi, j'interprète ça de la manière suivante. Si vous voulez,
correspond à l'esprit humain?
Oui, ça veut dire. J'ai un de mes amis qui est neurobiologue, professeur au Collège de France, qui m'a expliqué un certain nombre de choses sur le fonctionnement du cerveau. Et le cerveau, c'est un énorme filtre sur le réel.
Si vous voulez,
ça veut dire le cerveau ne voit pas tout. Voilà,
il accepte pas tout.
Il fabrique un modèle dans sa tête et il filtre le réel en fonction de sa tête. Et moi, mon intuition, si vous voulez, c'est la suivante, c'est que vous voyez quand vous faites un bâtiment, la première chose qu'on vous apprend en architecture de bâtiment, c'est que l'homme est la mesure de toute chose. Ça veut dire que les dimensions humaines définissent les dimensions des pièces, des portes, l'angle de vue des yeux définit par exemple comment on met un tableau quelque part. Et donc il faut connaître, et quand vous lisez un bouquin d'architecture de bâtiment, la première chose qu'on vous apprend, c'est les dimensions humaines.
Vous savez ce qu'on vous apprend en économie, hein? Il n'est de richesse que d'homme. C'est curieux qu'on revienne.
Et donc, en architecture de système, si vous voulez, comme là, c'est pas un bâtiment, le cerveau, le filtre du cerveau joue un rôle clé, et donc, pensez, limitation du cerveau, si vous voulez, elles impliquent des choses dans la manière dont on représente les choses.
Voilà.
Et donc, il est possible que le nombre 7, voilà, soit lié, en fait, à des limitations intrinsèques du cerveau. Alors maintenant, c'est pas ça, c'est pas du tout ma discipline, mais en tout cas, je constate mystérieusement que, voilà, ça y revient très souvent. Enfin, c'est 7 plus ou moins, c'est plus ou moins 2, voilà, c'est pas une valeur exacte.
Eh ben, merci beaucoup. Alors, d'abord, je suis ravi de vous avoir rencontré, parce que j'ai entendu parler de vous depuis longtemps. J'espère que cette conversation, et surtout, je trouve que cette conversation est encourageante parce que ça montre que nous avons des qualités en France que, malheureusement, nos systèmes de gouvernement ne semblent pas reconnaître, mais ça, c'est autre chose. Mais le personnel est là pour rebondir dès qu'on nous faudra la paix, quoi.
S'il me permet de faire un petit anecdote, c'était un ingénieur d'Airbus qui m'avait dit ça. Il ne faut pas croire que les Allemands sont bons en manufacturing. Souvent, c'est une erreur.
Moi, j'ai toujours trouvé que les Allemands étaient très mauvais. Ils sont mauvais en finance.
Donc, si vous voulez, les ingénieurs français sont vraiment très bons.
Oui, tout à fait, je n'en doute pas. Et d'ailleurs, on voit bien, puisque quand vous prenez le MSCI des valeurs industrielles, l'indice des valeurs industrielles en Europe, la France fait 27%, l'Allemagne fait 23%. Mmh. C'est-à-dire que nos valeurs industrielles, bon, on n'a pas d'usine en France, mais ça va pour ça dire qu'on n'a pas d'industrie. Oui, oui. C'est quand même incroyable. Donc ça m'amuse parce que vous voyez la façon dont l'individu compétent, l'industriel comme vous, se défend contre son propre État, en allant foutre des usines ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui.
Il n'a pas d'autre solution. Oui.
Bah, c'est, vous voyez, quand vous prenez l'exemple d'Air Liquide, par exemple, c'est des épopées amusantes parce que les premiers ingénieurs français, voilà, sont partis avec des valises de billets. Ils suivaient, en fait, les bateaux parce que c'était pour apporter des bouteilles de gaz pour tous ceux qui étaient soudage, vous voyez. Donc, il y a des ingénieurs français qui se sont retrouvés à Yokohama, totalement isolés, puis ils ont monté leur business là-bas. Quoi. Donc,
oui, ça a été une des très grosses filiales d'Air Liquide.
Donc on a des gens qui non seulement sont bons, mais aussi sont entreprenants.
Entreprenants et prêts à aller mettre la main dans le cambouis. Moi, j'ai des copains qui étaient chez Total, qui me disaient qu'il avait un gars, ou plusieurs, qui avait été corps des mines, donc un type brillant et tout, qui dirigeait une usine au fin fond du Nigeria. Et donc je me disais, c'est quand même curieux, parce qu'il pourrait être à Paris dans un cabinet ministériel, mais ça, ben, l'invitance, ça ne l'amusait pas du tout.
Ouais, je comprends très bien.
Moi aussi, je comprends ça très bien. Ben, merci beaucoup, et je vais parcourir votre livre, parce que probablement je ne comprendrai pas tout, mais je demanderai d'être Didier.
Parfait, merci beaucoup.
Merci mille fois d'être venu.